Il est 8h. Bonne journée à tous sur Europe 1. La suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous dans la matinale week-end. Dans un instant, l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Il reçoit ce matin Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale et députée La République en marche. Mais pour l'heure, les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 16 janvier. Et on l'apprend à l'instant. Novak Djokovic ne participera pas à l'Open d'Australie. Son recours contre son expulsion vient d'être rejeté à l'instant par le tribunal. Novak Djokovic était accusé de faire courir un risque sanitaire au pays. Il ne pourra donc pas disputer ce tournoi où il visait un 21e titre du Grand Chelem. Emmanuel Macron est-il en train de faire déborder par le Covid ? Le chef de l'État, longtemps porté par la gestion de la crise sanitaire, commence à faire les frais de la lassitude des Français. À moins de 3 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron se voit contraint d'indexer sa candidature à l'évolution de la crise. Après 2 ans justement de crise sanitaire, il y a vraisemblablement une accalmie. Tout semble indiquer en tout cas que la vague Omicron pourrait commencer à reculer. Le pic est proche selon les spécialistes. Malgré les quelques 300 000 contaminations quotidiennes, les hospitalisations sont en baisse pour le 3e jour d'affilée. À gauche, la guerre des égos fait rage sans que se dessine l'ombre d'une candidature unique. Pour l'instant, seule la dernière entrée dans la course, Christiane Taubira, accepte de participer à la primaire populaire fin janvier. Et puis Jean-Luc Mélenchon, pendant ce temps toujours à gauche, verse dans la technologie. Le patron de la France Insoumise promet aujourd'hui un meeting immersif et olfactif au Parc des Expositions à Nantes à partir de 14h. Voilà pour les titres et tout de suite l'interview de Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Ah, les nuits blanches de vos débats sur le pass vaccinal. Combien d'heures et de nuits ?
Une centaine d'heures de débat, plus de 4 nuits à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission ou en séance publique. Et je crois que les sénateurs ont également siégé beaucoup.
Et pour combien d'amendements ?
Pour un peu moins de 1000 amendements si on cumule les différentes lectures, puisqu'il y a eu 2 lectures dans chaque chambre.
Alors, je rappelle que vous êtes la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Et que là, cette fois, vous avez présidé la commission paritaire sénateur-député. Mais avant de commencer sur la loi, vous venez d'entendre l'information sur Djokovic. Il est interdit de tournoi en Australie. Il va être probablement expulsé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est exagéré ou ça doit être appliqué ?
Vous savez, qu'on soit finalement puissant ou misérable, c'est la même règle qui s'applique partout. Donc je crois que c'est bien. Nous ne pouvons pas transiger sur la vaccination. Le monde entier en est conscient. Et il n'y a pas de raison qu'un tel ou un tel ait un passe-droit. Donc c'est juste l'application normale d'une règle commune.
Vous pensez que c'est une mesure exemplaire ?
Pas exemplaire, en fait, finalement, normal. Et ça n'est pas parce que l'on est une célébrité ou un champion que la règle commune ne s'applique pas. C'est ça, justement, qui est exemplaire.
Et est-ce qu'il pourrait venir jouer à Roland-Garros ?
La même règle s'applique à tous. La même règle s'applique à tous. Aujourd'hui, il faut un pass vaccinal alors, pour être dans ce type d'activité publique, parce qu'il ne faut pas mettre les autres en danger. La règle doit être la même,
donc,
tout simplement.
Il est encouragé à se faire vacciner s'il veut venir à Paris.
Tout à fait.
Noël, Yaël Braun-Pivet, donc bonjour. Cet après-midi a lieu à l'Assemblée le vote final sur le pass vaccinal et toutes les mesures qui vont avec. Les députés, selon la Constitution, ont toujours le dernier mot. Est-ce que vous pensez que la loi sera votée définitivement ce soir ?
Oui, la loi sera votée définitivement ce soir. Nous reprenons nos débats à 16h pour cette lecture définitive. Nous avons encore quelques divergences de vues avec nos collègues sénateurs. Donc nous devrions rétablir le texte tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale. Et la loi sera votée dans la soirée définitivement.
Mais la bataille a été longue et rude, vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'au dernier moment. Mais hier, samedi, les sénateurs, c'était pour eux le retour du projet de loi issu de l'Assemblée nationale. Eux, cette fois, ils l'ont voté à une large majorité. On peut dire que de ce côté-là, c'est fait.
Alors de ce côté-là, c'est fait. Ils ont quelques divergences de vues avec nous, notamment sur la vérification d'identité et sur les amendes administratives. Mais ils ont adopté le texte. Vous avez rappelé que ça a été long et laborieux parce qu'il y avait des déclarations de principe sur les plateaux indiquant qu'ils étaient très favorables à la politique menée par le gouvernement par rapport à ce pass vaccinal. Mais à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'était tout l'inverse avec des arguties procédurales et beaucoup de députés des Républicains qui s'opposaient frontalement au texte en déposant de nombreux amendements de suppression.
a noté hier au Sénat que les PS 58 se sont abstenus, 3 ont voté contre, et 103 LR ont voté pour, 20 contre et 21 abstentions. C'est-à-dire que le tiers, 41 sénateurs, n'ont pas obéi ou suivi les consignes données par leur candidate Valérie Pécresse.
Ce qui montre qu'ils sont tout aussi divisés que les parlementaires à l'Assemblée nationale, puisqu'on retrouve un petit peu les mêmes ratios, ce qui conduit Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, à déclarer 70% des députés LR ne s'opposent pas au texte. Donc vous voyez bien que pour mener une politique sur ce plan-là, on n'a pas besoin de gens qui ne s'opposent pas, on a besoin de gens qui résolument sont pour la politique qu'on mène, qui sont unis. C'est notre cas, visiblement, eux en sont incapables.
Dans le JDD, un député LRM dit « Les LR sont moins en forme que nous, mais je ne suis pas sûr qu'on soit plus en forme. »
Nous, nous sommes en tout cas résolus et nous sommes surtout unis, contrairement à eux.
Et Damien Abad, cet exécutif mène la politique du diviser pour mieux régner.
Écoutez, je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour se diviser. À nouveau, nous, notre majorité a montré pendant tout justement cet examen du texte que nous étions particulièrement unis entre La République En Marche, le MoDem et Agir. Je crois que c'est ça qu'attendent les Français lorsque vous devez faire face à une crise sanitaire. C'est de l'unité et de la résolution dans l'action.
Cette fois-ci, les députés, tous les députés marcheurs, étaient en séance. Ça n'arrive pas tout le temps.
Alors, ils ont toujours été en séance depuis le début pour justement avoir suivi l'intégralité des débats. Nous n'avons jamais été mis en difficulté sur le fond du texte. Après, vous savez, il y a eu une péripétie de procédure parlementaire le premier jour pendant laquelle nous avons voté pour la prolongation de séance, qui ne se fait jamais d'habitude, normalement.
Sur des textes urgents, on ne revient pas sur cette polémique. On avait remarqué qu'il n'était pas là, mais sur la loi. Si elle est adoptée cet après-midi à l'Assemblée, quand sera-t-elle promulguée puis appliquée pour nous tous ?
Alors, tout dépend du fait de savoir s'il y aura un recours au Conseil constitutionnel de députés ou de sénateurs.
Oui.
Il est probable qu'il y en ait un, mais ils sont libres de le faire. S'il n'y a pas de recours, la loi pourra être promulguée dans les jours qui viennent. S'il y a un recours, il y aura quelques jours de délai pour que le Conseil constitutionnel statue, ce qui est bien normal.
Alors le pass vaccinal voté, jusqu'à quand il va durer ?
Alors aujourd'hui, il y a une limite temporelle maximum qui est le 31 juillet 2022. Maintenant, le gouvernement a une contrainte qui est qu'il ne peut l'utiliser que si la situation sanitaire l'exige au vu d'un certain nombre d'indicateurs. C'est ce que nous avions mis dans la loi cet été. Cette disposition est maintenue, donc elle est conditionnée à la situation sanitaire. Il faut que ça soit nécessité par cette situation et proportionnée. Dès que ça ne sera plus utile, le gouvernement a l'obligation de supprimer ce pass.
D'autant plus qu'en décembre, Jean Castex avait annoncé que les nouvelles mesures de contrainte s'appliqueraient pendant 22-23 jours, on y est en train d'arriver. On dit qu'il y a moins de pression dans les hôpitaux et les salles de réanimation. Certes, la prudence demeure, mais est-ce que, comme il y a des preuves en Île-de-France et dans certaines régions que ça s'améliore, est-ce que l'évolution, si elle est favorable et si elle se confirme, peut amener des allègements du carcan sanitaire ?
Alors, il pourra effectivement y avoir probablement des allègements en fonction de l'évolution de la situation. Et il nous faut une situation qui se stabilise et qui s'améliore durablement parce qu'on voit bien qu'il s'agit de vagues. Donc soyons très prudents. Ces allègements peuvent aussi concerner les lieux de restauration sur lesquels on doit être assis, etc. Donc vous voyez, il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le pass vaccinal, qui a pour objectif notamment d'inciter nos compatriotes à être vacciné, doit être maintenu pour au moins quelques semaines, voire quelques mois, parce que nous avons vraiment besoin d'avoir un taux de vaccination très élevé, et ça, c'est une condition très durable.
Il faut rappeler que l'objectif, finalement, c'est de réduire le nombre de non-vaccinés.
Exactement.
Ce qui devrait s'inscrire maintenant définitivement dans la loi pour maîtriser, justement, l'épidémie, puis enfin convaincre ou séduire les non-vaccinés à se faire vacciner, les restaurateurs y refusaient de contrôler l'identité de leurs clients, en plus du pass vaccinal. Qu'est-ce qui ressort de la loi ?
Nous avons choisi de ne pas faire un contrôle d'identité, mais juste une vérification de cohérence entre deux documents, le cas échéant. Donc si le restaurateur s'aperçoit qu'il y a vraiment une incohérence entre la personne et le titulaire du pass, quelqu'un qui a visiblement 50 ans et qui montre un pass d'une personne qui visiblement est tout jeune. Donc voilà, de la souplesse. Une possibilité de vérification, en aucun cas, ça n'est obligatoire. Il y a des pays qui ont fait le choix d'avoir une vérification obligatoire.
Mais ce ne sont pas des policiers, les restaurateurs.
Nous n'avons pas fait ce choix, donc juste une vérification de cohérence, comme cela se fait quotidiennement par les restaurateurs lorsqu'ils vendent, par exemple, de l'alcool à un jeune.
Je vais vite. Les entreprises qui ne respectent pas le télétravail étaient passibles d'une amende. De combien ? Et la loi le dira.
La loi prévoit une amende. Donc aujourd'hui, elle a été supprimée par les sénateurs qui souhaitent qu'il n'y ait pas d'amende. Nous pensons qu'il faut vraiment rendre notre politique très effective.
Donc punir,
une amende.
Punir.
Non, parce
une amende par salarié.
Une amende par salarié de 500 euros et avec un plafond qui permet de moduler en fonction de la taille de l'entreprise, avec un plafond de 50 000 euros. Il s'agit d'instaurer d'une part un dialogue entre l'inspection du travail et l'employeur pour protéger nos salariés. Et puis si ce dialogue est infructueux et si l'entreprise continue à être récalcitrante, l'inspection du travail aura la possibilité de mettre une amende administrative. Et bien évidemment,
il y aura des contrôleurs, des inspecteurs un peu partout.
Mais vous savez, il s'agit de protéger nos compatriotes, il ne s'agit pas de manier le bâton, il s'agit vraiment de faire en sorte que partout où nous soyons, d'accord, nous soyons protégés de cette épidémie.
Un petit bâton quand même. Qu'est-ce qui est prévu et autorisé pour les prochains meetings politiques ?
Alors nous avons, à l'initiative du groupe Les Républicains, adopté un amendement qui permettra aux organisateurs de meetings politiques de demander le pass sanitaire, puisqu'avant cela était interdit. Donc ils ont la faculté de le faire, ce n'est pas obligatoire, ils ont la faculté de le faire et la majorité à laquelle j'appartiens a d'ores et déjà annoncé qu'elle le ferait.
Et alors l'autre mesure importante et attendue, le pass vaccinal s'applique ou pas aux adolescents de 12 à 18 ans comme demandait le Sénat ou de 12 à 16 ans?
Alors nous avons choisi d'adapter le dispositif et de permettre le pass vaccinal à partir de 16 ans. Avant, ce sera pass sanitaire. Il y a une cohérence d'ensemble puisque cet été, nous avions décidé de permettre à nos adolescents de 16 ans de se faire vacciner tout seuls. Donc nous considérons que s'ils sont responsables pour aller se faire vacciner donc indépendamment de leurs parents, on doit pouvoir leur appliquer le pass vaccinal. Donc 12-16, pass sanitaire. À partir de 16, pass vaccinal pour tous.
Et encouragement à se faire vacciner.
Et bien évidemment, encouragement à se faire vacciner.
Les maires, ce sont dans l'ensemble, les maires de municipalités, ce sont dans l'ensemble bien engagés contre les virus et pour la vaccination. Mais on leur pose aujourd'hui le dilemme des parrainages. Ce qui fait qu'ils sont menacés, agressés. D'abord, il y a une condamnation de ceux qui les agressent, je suppose.
Bien évidemment.
Mais le nouveau président de l'Association des maires de France, David Snisna, est tout à l'heure l'invité du grand rendez-vous. Dans un souci démocratique, à votre avis, est-ce qu'il doit encourager les maires à parrainer Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, qui disent manquer de parrainage ?
D'abord, vous avez raison de rappeler que les maires, par rapport à l'épidémie, moi je le vois dans mon territoire des Yvelines, se sont formidablement engagés et s'engagent encore aujourd'hui, notamment dans la gestion des écoles. Et il faut toujours, toujours saluer leur action dont on a impérieusement besoin.
Non, mais alors, sur les
concernant
parrainages.
Les parrainages, moi je crois que la règle qui existe est une bonne règle. Nous avons besoin d'un filtre pour cette élection présidentielle. Les maires potentiellement, mais ce ne sont pas les seuls élus, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les parlementaires peuvent également parrainer. Ils doivent le faire à visage découvert. Et moi, je suis assez sceptique de la capacité que pourrait avoir tel ou tel candidat à demain présider aux destinées de notre pays s'il est dans l'incapacité de réunir 500 candidatures.
Ça, c'est une attaque politique. D'élus. Mais est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans un souci démocratique, il ne faut pas donner des chances à tout le monde d'être là?
Eh bien, les chances que tout le monde peut avoir de se présenter, c'est d'aller chercher ces parrainages. Il ne s'agit pas de brader, en fait, le parrainage. Non, c'est quelque chose de sérieux.
Donc, il est évident qu'on ne changera pas les règles là. Mais est-ce que, pas avant, mais après la présidentielle, il ne faudra pas choisir ou la transparence ou plus le secret ou l'anonymat?
Moi, je suis partisane de cette transparence. Il est évident que nous ne changerons pas les règles du jeu 3 mois avant la présidentielle. Nous l'avons toujours dit. L'élection est sanctuarisée dans son mode de fonctionnement. Organiser un débat a posteriori, pourquoi pas, mais la position qui est la mienne est assez claire.
Deux questions politiques très vite. Éric Dupond-Moretti sera bientôt devant la Cour de justice de la République. Un ministre de la Justice en plein état général de la justice, que pourtant il connaît avec toutes les difficultés, présenté devant une telle instance, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que est-ce que c'est l'application impartiale et juste de la justice ou de l'acharnement à son égard.
Et comme vous le savez, vous l'avez rappelé, je préside la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il n'est pas question que je me prononce sur le fond de cette affaire. Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'Éric Dupond-Moretti est un excellent ministre de la Justice qui remplit parfaitement sa mission.
Oui, mais là,
qu'il
toute mène aujourd'hui un débat judiciaire très contre important. Lui. Il a toute l'institution judiciaire contre lui. Est-ce qu'il n'a pas échoué dans sa mission ?
C'est pas vrai. Il conduit aujourd'hui les états généraux de la justice et c'est le dialogue instauré avec les juridictions est nécessaire. Nous avons besoin d'une justice qui soit réformée, qui soit en ordre de marche.
Un mot sur Christiane Taubira. Elle est candidate à l'Élysée. Elle accepte de participer à une primaire sans débat, sans légitimité, faite pour elle et pour le nombre de tous les candidats qui sont compte et qui disent non, non, non. Est-ce que la méthode et sa candidature sont des exemples ou de bonnes mesures pour régénérer les gauches et la politique ?
Moi, je crois que la politique, c'est un combat avant tout d'idées. Et donc, une primaire qui s'organise sans présentation de programme et sans débat d'idées, ça me laisse un petit peu perplexe.
Il n'y a pas d'hommes ou de femmes professionnelles, providentielles, d'hommes ou de femmes providentielles.
Il faut un projet pour la France. On peut avoir un homme ou une femme providentielle, mais qui porte un projet, qui porte des idées et qui entraîne les citoyens derrière lui ou derrière elle.
C'est ça qu'on attend. Mais dans votre camp, il n'y a pas d'hommes providentiels non plus ?
Bah écoutez, moi, je suis engagée en politique depuis 2017 seulement, derrière Emmanuel Macron. Pour lui, pour moi, c'est lui qui m'a fait venir à la politique avec sa vision de notre pays et sa vision progressiste. Et donc, pour moi, c'est lui, évidemment, le leader de notre majorité.
Donc, vous attendez que la Providence descende bientôt sur Terre.
Ce n'est pas la Providence, c'est juste de la belle politique.
Bonne semaine et surtout bonne journée, parce qu'elle se vote. Merci,
merci beaucoup à vous également.
Dans la matinale week-end, le face-à-face Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. On reviendra sur l'expulsion à l'instant de Novak Djokovic d'Australie, mais aussi sur le pouvoir d'achat des Français, entre autres. Restez avec nous, à tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
Le face-à-face de la matinale week-end, c'est maintenant avec ce matin Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume.
Bonjour Isabelle.
Et Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Bonjour à vous. Gabriel. Alors, si vous voulez bien, on a un peu bousculé l'ordre d'apparition des thématiques de ce face-à-face parce qu'on a appris il y a quelques instants à peine que le recours de Novak Djokovic contre son expulsion d'Australie venait d'être rejeté par la Cour fédérale australienne. On suit le feuilleton depuis une semaine maintenant. Novak Djokovic qui a menti sur ses déclarations, qui n'est pas vacciné. Il y a eu cette opposition entre d'un côté le gouvernement australien, de l'autre la fédération qui évidemment voulait voir le champion serbe disputer cet Open d'Australie où il espérait décrocher un 21e titre du Grand Chelem. Finalement, après des recours, des rejets, etc., ça y est, la Cour a statué, terminé, ce qui veut dire que vraisemblablement Novak Djokovic va devoir quitter l'Australie, qu'il risque quand même 3 ans d'exclusion définitive du pays, il ne pourra plus remettre les pieds en Australie, ce qui est quand même lourd de conséquences pour lui, puis bien sûr pour son image, pour son palmarès, etc. Guillaume Bigot, une réaction à cette décision de justice ?
Alors, vous savez, toute idée, tout mouvement a besoin d'être incarné, d'avoir un symbole. Le mouvement de lutte contre le réchauffement climatique à Greta Thunberg, là, je pense que la cause, disons, anti-vax, anti-pass en général, a trouvé, avec le numéro 1 mondial de tennis, son incarnation, son porte-drapeau. C'est devenu maintenant voilà, l'incarnation. C'est d'autant plus vrai que dans les manifestations, les dernières manifestations, on voit des panneaux fleurir, et pas qu'en France, Novak Djokovic, avec ce jeu de mots sur son prénom. Donc on est là-dedans, on est dans une sorte de cristallisation. Ensuite, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'effectivement, c'est une pandémie, donc c'est mondial, donc ça se joue à l'échelle mondiale. Et là, si vous voulez, on a quand même un Serbe. C'est pas neutre. Les Serbes sont d'abord patriotes. En Serbie, il y a beaucoup de naturopathie, il y a beaucoup de médecine douce, etc. Il y a quand même un mouvement très hostile à tous les laboratoires pharmaceutiques. Il y a d'autres pays comme ça, hein, le Sri Lanka, par exemple. Bon. Et Novak Djokovic, il est aussi le ressortissant d'un pays très fier, qui est le seul pays à avoir été bombardé par les États-Unis depuis 1945, puisque Belgrade a été bombardé par les bandes de l'OTAN. Donc vous voyez, cette affaire d'antivax et de provax,
et
ça cristallise des enjeux géopolitiques.
Bien, mais sur la décision...
revenons au terrain, la décision de l'Australie, bah, dura lex et lex, ils appliquent leur loi. D'un autre côté, là où c'est un peu pervers, c'est qu'il a quand même demandé à pouvoir bénéficier d'une exception. C'est bien sûr la Fédération australienne de tennis qui lui a donné cette autorisation pour la beauté du spectacle, parce que c'était difficile de disputer ce tournoi, ce grand tournoi, sans le numéro 1 mondial. Ça lui a été accordé, mais simplement, c'est les autorités australiennes qui tiennent à faire savoir que la loi est la même pour tous et qu'ils ne vont pas caler dans cette lutte contre la pandémie.
Et qu'il n'y a pas de passe-droit. Gabriel Cluzel, une réaction?
Alors, vous voyez, quand je vois ça, je pense à cette phrase de Talleyrand, quand je me contemple, je me désole, quand je me compare, je me console. Eh bien, je vois qu'on se plaint de la politique de la France, mais l'Australie est encore plus dingue, si vous m'autorisez ce mot-là, parce qu'il y aurait bien eu évidemment, moyen d'éviter cette polémique, qui en effet est contre-productive pour ceux qui veulent défendre la vaccination, puisque Djokovic devient... de fait une icône, presque un martyr entre guillemets, donc c'est
du côté
c'est
des Serbes,
fait...
c'est pas le cas des Australiens,
c'est tout à fait, non mais il y a une forte communauté, enfin il y a une communauté serbe en Australie qui a été extrêmement choquée, d'autant qu'il y a un contexte, il a été mis en rétention, oui, au moment du Noël orthodoxe, qui n'est pas neutre pour les Serbes. Et puis il faut pas oublier quand même, parce que quand j'entends dire qu'on soit puissant ou misérable, le traitement est le même pour tous. Tout le monde n'a pas donné, alors c'est ce qui a été dit, hein, je crois que c'est vrai, dans un certain nombre de médias, tout le monde n'a pas donné pour lutter contre les feux en Australie en 2020 et de façon plus générale pour lutter contre le Covid aux hôpitaux serbes, italiens, et c'est le cas de Djokovic. Donc toute cette affaire est assez mal gérée sur un plan diplomatique. Et c'est vrai que pour les Serbes, qui sont de fait un peuple très fier, qui a beaucoup souffert, hein, qui a été très proche pourtant de nous autres, hein, pendant la guerre de 14-18, etc., et qui s'est senti extrêmement agressé par les bombardements de fait, finalement assez récents, c'est quelque chose qui est vécu comme une forme de petite persécution.
Bon, ben voilà.
Au lieu d'emmerder les non-vaccinés, on emmerde le numéro 1 mondial de tennis. Voilà, pour faire un exemple.
Enfin, en même temps, c'était le seul qui n'avait pas
respecté
les règles. D'ailleurs, c'est ce que Raphaël Nadal lui reprochait, ou les autres joueurs d'une manière générale.
Mais
pas juste.
Non, mais j'entends bien. Alors, oui, ça se discute, mais il y a surtout cette idée d'exemplarité, de vouloir faire un exemple. Et donc, en réalité, là, on voit bien que c'est davantage la vertu de l'exemple pour les Australiens, les autorités australiennes, que le fait que lui-même, tout seul, va répandre la pandémie dans
bien
toute
sûr.
L'Australie, alors même que le variant n'est plus vraiment bénin et que de toute façon, on ne peut pas l'empêcher de se propager.
Et bénin,
bon. Le variant. Vous voyez bien que c'est un pur prétexte.
Bien, alors, le variant, décidément, bon, bah, voilà, il est partout, c'est le principe même de la pandémie. Et il commence à rattraper Elisa Lukaski, Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent bénéficiait plutôt de la gestion de la crise. Sauf qu'après 2 ans, eh bien, les Français commencent à être lassés de la situation. Et forcément, eh bien, ça joue sur la campagne ou la campagne à venir d'Emmanuel Macron.
Assez significative hein, dans l'opinion de la gestion de cette crise sanitaire par l'exécutif. Exemple avec le pass vaccinal qui a été adopté cette nuit au Sénat. Si la majorité des Français y sont toujours favorables, 58% aujourd'hui, eh bien cette adhésion elle est en nette baisse puisqu'en janvier, enfin début janvier exactement, ils étaient 63%. Même constatation concernant la vaccination obligatoire. Alors qu'en novembre, 68% la soutenaient. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 59%. Sans parler de crise de confiance, eh bien, on observe une baisse de la confiance des Français dans la gestion de cet épisode par l'exécutif. Cet été, fin août, ils étaient 52% à faire confiance au gouvernement pour répondre efficacement à la pandémie. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 41%. On la voit, cette baisse. Preuve de cette lassitude face aux restrictions sanitaires. La cote de confiance envers Emmanuel Macron, elle chute de 4 points en janvier. Elle retombe à 32%. C'est le niveau de décembre 2020, le plus bas niveau depuis un an. Différents chiffres qui vont être scrutés hein, à la loupe par l'actuel chef de l'État, tout comme le niveau de circulation du virus qui est devenu le paramètre principal pour déterminer l'annonce de sa candidature.
Merci Elisa, et des chiffres que nous allons scruter à la loupe, nous aussi avec Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot. Guillaume, et 52% à faire confiance au gouvernement pour répondre à la crise cet été, 41% seulement, une perte de 10 points en l'espace de 6 mois.
Oui, parce que la stratégie du bouc émissaire à roue contre les fortes têtes qui refusent encore d'obtempérer à la vaccination, c'est quelque chose qui a pu plaire et qui a pu fonctionner à mesure que, un, le virus était vraiment très menaçant pour tout le monde, et deux, que ce n'était finalement, on protégeait la majorité contre la minorité. Là, on a vraiment l'impression que maintenant, le brouillard se dissipe, et on voit finalement la politique telle qu'elle est, c'est-à-dire vraiment, je ne dis pas brutaliser, on voit encore que les enfants, si, mais vraiment, d'une certaine façon, pressurer la majorité pour protéger une toute petite minorité de gens qui refusent, etc. Donc en fait, il y a une politique de en même temps qui était effectivement, le virus était tout à fait, jusqu'à présent, il y avait des variants macronistes ou macroneux du virus, ça permettait en même temps au gouvernement, c'est-à-dire en même temps, je vous fais peur, mais en même temps, je vous protège. Et là où Emmanuel Macron était assez subtil dans ce slalom, c'est qu'il nous protégeait à la fois contre la maladie, il nous protégeait à la fois contre les conséquences économiques du virus, et il nous protégeait, et là, vraiment du grand art, contre ses propres enfermistes, contre lesquels il pouvait donner un coup de maillet sur la tête en disant « bon, rentrez à la niche, moi je défends les Français ». Donc je fais tout ce qu'il faut pour pressurer les Français, puis quand il y a trop de pression, je vais pressurer ceux qui pressurent les Français. De sorte qu'il sortait absolument vainqueur de ce... et que le virus lui était très très favorable. Là, je pense qu'il est allé un chouïa trop loin. Pourquoi ? Parce que finalement, à travers les enfants, à travers les écoles, ça touche vraiment, disons, les forces vives du pays, les gens qui vont bosser, les gens qui déposent les enfants à l'école, etc. Et là, c'est pas seulement les antivax qui l'ont emmerdé. Il a emmerdé les classes moyennes, il a emmerdé les mères de famille, il a emmerdé les profs. Et il y a un en même temps qui se retourne contre lui. Regardons ce qui se passe dans les écoles. En même temps, il y a des enseignants qui disent « Mais on n'a pas assez de mesures, donnez-nous 50 FFP2 par personne, donnez-nous des purificateurs d'air, vous nous avez fait peur et nous croyons à cette peur, donc plus. » Et de l'autre côté, il y a des parents qui disent « Attendez, on voit bien que c'est Omicron, il n'y a plus personne qui va, ou très peu de gens qui vont en réa maintenant, en tout cas pas nos enfants et pas nous qui sommes pas à risque, donc arrêtez de nous casser les pieds. » D'ailleurs, c'est M. Blanquer, on entend entre les lignes les déclarations de M. Blanquer quand il dit on va...
Le ministre de l'Éducation nationale, très, très, très chahuté pour cette rentrée scolaire.
Très chahuté, et je trouve que la déclaration qu'il a faite au sujet des masques FFP2 était très étonnante. C'est-à-dire que si on écoutait, on tendait vraiment l'oreille, bien sûr, il donnait les éléments de langage qu'on lui avait dit donner. Donc j'ai fait en sorte d'acheminer, de prendre un stock d'FFP2, de mettre à disposition, mais il a quand même fait des parenthèses où il a dit « mais ça ne sert à rien cette histoire, mais ils m'ont forcé à le faire, je l'ai fait quand même ». Voyez. Donc là, ça commence à craquer.
Pour en revenir sur cette érosion de la confiance des Français, Gabriel Cluzel, comment est-ce que vous l'analysez, vous ? De la même manière que Guillaume ?
Moi, je pense que son mot malheureux, mais semble-t-il calculé d'emmerdeur, de sa volonté d'emmerder les Français, a fortement déplu, je crois.
On ne l'a pas vu tout de suite et c'est maintenant que
voilà,
ça commence
alors,
à se voir,
au début, tout le monde a dit « Ah non, c'était un excellent coup, c'est merveilleux. Au contraire, il a mobilisé son camp. » Je crois, moi, que c'est un mot qui a profondément choqué, déjà parce que la vulgarité n'a pas lieu d'être dans la bouche d'un président de la République. Et puis, c'est une façon de mettre le curseur. Vous connaissez ce dicton. On dit que quand le chef s'assoit, tout le monde se couche. Eh bien, il a mis un curseur dans la vulgarité. Il ne faut pas s'étonner ensuite que dans les manifs anti-vax, il y ait des slogans extrêmement vulgaires, parce que c'est évident, la riposte est forcément celle-là. Donc, ça, je pense que ça a été très mauvais. Il ne faut pas oublier qu'en plus, que parmi les gens qui te souhaitent emmerder, il y a 500 000, si j'ai bien calculé, personnes très âgées. On ne parle pas des octogénaires, des nonagénaires, même des septuagénaires de cette façon, ne traite pas les gens de cette façon. Il y aurait eu 1000 façons de s'adresser de façon respectueuse aux gens non vaccinés, mais pas celle-là. Maintenant, tout n'est pas terminé parce que tout dépendra, je crois, pour Emmanuel Macron, de la sortie de la pandémie. Il peut être encore le père de la victoire. Si juste avant, nous sortons de la pandémie, juste avant les présidentielles, il y aura peut-être un grand mouvement d'euphorie, si c'est vraiment tout le monde s'accorde à dire que c'est terminé, c'est possible. En revanche, si nous en sortions là assez rapidement avec Omicron, là on tirerait les dividendes et on ferait l'inventaire de cette crise, de cette pandémie et de la gestion qui en a été faite par le gouvernement. Et peut-être que effectivement, ce serait très dur pour Emmanuel Macron et la gestion de la crise s'inviterait de façon froide dans les présidentielles.
Et la question effectivement se pose de sa déclaration de candidature qu'il va vraisemblablement ajuster, comme le disait Gabriel Cluzel, en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Alors ça, c'est vraiment de l'audace, parce que confier à un virus qui est un organisme vivant, qui mute, etc., le soin de dicter à quel moment il sera candidat et au nombre de cas...
On peut imaginer en tout cas qu'il le suit de près.
Parce qu'en fait, si vous voulez, là où le calcul était intelligent, dans la mesure où on avait quelque chose qui était quand même assez dangereux, qui emmenait beaucoup de gens malheureusement dans les urgences et pas mal de décès, et qu'on pouvait maîtriser sur le plan de la contamination. Là, les deux paramètres ont changé. C'est-à-dire que, un, c'est beaucoup plus bénin, ça ne veut pas dire que ça tue personne, mais infiniment moins, c'est beaucoup moins dangereux. Et donc, la proportionnalité entre les mesures, le bénéfice-risque, vous voyez, confère l'Espagne, confère Israël, etc., on n'y est plus du tout. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, simplement, c'est qu'il va falloir, un, de dire qu'on arrive à maîtriser, grâce aux mesures, les nombres de contaminations. S'il veut indexer sa candidature sur le nombre de contaminations, ça ne va pas, vous voyez. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à maîtriser le nombre de contaminations. Et en plus, les mesures visant à protéger la population vont être de moins en moins légitimes, à mesure que le poteau rose, c'est-à-dire les informations qui viennent notamment de Grande-Bretagne, parce que, on a dit, l'Afrique du Sud, à juste titre, ils n'ont pas la même pyramide des âges, c'est vrai.
C'était difficile de comparer.
C'est difficile, mais la Grande-Bretagne, on y est vraiment. Donc là, ça devient très, très, très compliqué. Donc, confier au virus le soin de régler, voilà, en temps normal, avec un virus dangereux, d'une certaine façon, et avec les beaux jours arrivant, donc la contamination s'arrêtant, oui, là, c'était un coup assez malin, en disant, regardez, la contamination s'arrête, c'est moins le fait des mesures que de la température, mais enfin, tout de même, on arrive au beau jour au moment de la candidature, et en même temps, je vous ai protégé parce que le virus est dangereux. Là, les deux paramètres sont modifiés.
Gabriel Cluzel, vous voulez ajouter quelque chose sur cette candidature dont on dit qu'elle pourrait intervenir peut-être à la fin du mois, peut-être mi-février ?
Ce qui est certain, c'est que, de fait, la crise sanitaire joue de façon très certaine sur sa déclaration. Mais la gestion qui en a été faite aussi, moi, ce que je crois, c'est que pour le moment, cette crise est un rideau occultant sur tout le reste.
Oui, bien sûr.
Et l'urgence est de déchirer ce rideau occultant, parce que nous prenons le risque de nous retrouver après la présidentielle avec le sentiment de nous être fait voler cette élection, et ça, je pense que ce serait terrible, y compris dans la rue, hein. Il pourrait y avoir des répercussions. Ce quinquennat a été extrêmement bousculé entre les gilets jaunes et tout ce que même aujourd'hui les manifs anti-vax, enfin, il y a eu des mouvements de forte gronde. Mais si en plus, après la prochaine présidentielle, les électeurs français ont le sentiment que finalement, à parler du Covid, qui se sera potentiellement dissipé, on l'espère, eh bien on a évoqué de façon extrêmement légère et biaiser tous les grands sujets qui les occupaient de façon structurelle, parce qu'on peut espérer que le Covid soit conjoncturel et s'arrête, eh bien, il pourrait y avoir une immense frustration, et je crois que Emmanuel Macron aurait tort de jouer à ce jeu-là et à user de cette couverture qui est un peu facile.
Mais là, pour reprendre votre expression, le rideau commence sérieusement à se lever, Guillaume Bigot.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Avec les chiffres.
Je suis d'accord avec Gabriel Cluzel. Il y a un effet, un grand trou noir nommé Covid. Ça évite de parler du bilan, ça évite d'amener la campagne sur d'autres sujets. C'est extrêmement pratique. Ça fige, si vous voulez, ça passe tout le débat au gel hydroalcoolique, cette affaire de Covid. Donc c'est très bien pour le chef de l'État. Et en plus, il apparaît, comme je répète, celui qui à la fois protège les Français et en même temps les protège des enfermistes. Donc c'était nickel. Sauf que là, c'est ni Valérie Pécresse, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni Jean-Luc Mélenchon qui vont peut-être atteindre Emmanuel Macron et l'empêcher d'aller au deuxième tour. Si c'était le cas, moi je vous annonce quel est l'ennemi d'Emmanuel Macron. Ça va être Omicron qui va probablement terrasser Emmanuel Macron s'il n'arrivait pas au deuxième tour. Il n'y aurait pas d'autre ennemi pour l'instant.
Bien, le pouvoir d'achat, on commence quand même aussi à en parler. Ce n'est pas faute d'avoir essayé d'évoquer le sujet, mais là, ça y est, ça s'inscrit un peu dans cette campagne présidentielle en dépit du Covid, avec plusieurs propositions de candidats, et notamment celle que je voudrais vous faire écouter, de Christiane Taubira, qui a officialisé sa candidature hier à Lyon et qui propose cette mesure, par exemple.
Il faut que nos jeunes puissent faire des études, parce qu'ils sont... Elles sont notre avenir. Or, aujourd'hui, 46% des jeunes sont obligés de travailler pendant leurs études. Nous veillerons à ce qu'ils soient en capacité de se consacrer à leurs études, en leur allouant un revenu de 800 euros par mois pendant 5 ans, de façon à ce qu'elles puissent étudier et mettre tous leurs talents au service de notre avenir. C'est le premier grand axe de mes priorités. Le deuxième, c'est la justice sociale. Et d'abord, évidemment, les bas salaires qu'il faudra revaloriser. Le SMIC aussi, qui doit passer à 1 400 euros net.
Et ça y est, là commencent à s'égrener les différentes propositions. Guillaume Bigot, une réaction.
Oui, bon là, c'est classique en campagne électorale. C'est la mère Noël, elle va distribuer des tas de cadeaux, etc. Elle n'est pas la seule à faire ça. Madame Hidalgo, avec les enseignants, beaucoup de candidats. Bon, ce qu'on peut dire, c'est assez attendu. Ce qui est un peu gênant, c'est que, si vous voulez, un programme pour la présidentielle, ça comporte quand même beaucoup de mesures, disons, techniques de ce type. Plus 800 euros pour les uns, plus 1 milliard par-ci, 3 milliards par-là. Enfin, la question du chiffrage et d'arriver à ce niveau de détail, ce n'est pas quelque chose, à mon avis, qu'on lance comme ça à la cantonade dans une déclaration de politique pour se positionner en tant que quelqu'un qui veut atteindre la magistrature suprême en France. C'est un horizon général qu'il faut, à mon avis, me semble-t-il. Et on parlait tout à l'heure de la thématique de campagne. Effectivement, M. Macron voulait amener la thématique de campagne pour l'essentiel sur le sanitaire, avec derrière l'idée qu'il continue à exercer la fonction, donc c'était le président, il suffisait de le réélire, et voilà. Et deuxièmement, on a M. Zemmour, qui voulait amener la question centrale qui était est-ce que oui ou non la France va survivre en tant que civilisation, en tant que nation. Et ensuite, on a là quand même quelque chose qui n'est pas, si vous voulez, la question du pouvoir d'achat, c'est un enjeu bien sûr, mais quel horizon général, quelle grande stratégie, quelle grande idée, quelle grande ligne d'horizon est-ce qu'elle va découvrir ? Non, on est en train de parler de petites mesurettes. Alors, deuxième commentaire très bref, je trouve que autant certains font trop attention d'une certaine façon à la communication, c'est trop léché, ils en font trop, ça, y a un côté un peu faux, si vous voulez, dans cette communication trop maîtrisée, autant là, c'est quand même étonnant. Et Mme Hidalgo, c'était la même chose, c'est-à-dire que là, ils prennent la parole devant un... Alors, on parlait d'horizon, justement, de dégager un horizon. Là, on voit une espèce d'épais brouillard derrière. Enfin, elle est quand même
visuellement,
complètement
vous voulez dire
emmitouflée.
Que...
Elle n'a pas réfléchi, et les gens qui sont autour d'elle n'ont pas réfléchi à l'effet visuel. On est dans un univers visuel cataclysmique que ça
pourrait
avoir.
Ce qui n'est pas le cas pour le coup de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui nous annonce en fanfare...
Eh bien, justement, c'était ma conclusion. Regardez le décalage. Quand vous voulez vraiment quelque chose, vous vous donnez les moyens de le vouloir. Après, il y a les tempéraments...
Il faut avoir les moyens aussi financiers, parce que...
Et bien sûr.
Le coût de la
politique
de Jean-Luc Mélenchon, c'est 300
millions. Il faut pouvoir le financer. Mais enfin bon, vous mettez le prix quand vous voulez y arriver, vous voyez.
Bien sûr. Alors, pour en revenir au pouvoir d'achat, ou en tout cas à cette mesure destinée pour les jeunes, Guillaume Bigot évoquait une mesurette, pas de grand axe.
Oui, non. Alors c'est vrai que le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure des Français et je crois que c'est Jérôme Fourquet qui rapportait que quand on interrogeait nombre d'entre eux, ils disaient finalement quand j'ai tout payé, toutes les charges je fixe, etc., eh bien il ne me reste plus rien. Mais ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global. C'est vrai que ce qui est un peu étonnant, c'est que quand on est président de la République, on ne voit pas les choses par le petit bout de la lorgnette. On n'est pas dans une approche micro-comptable. Il faut une grande vision de la France. On peut reprocher beaucoup de choses. Certains en veulent beaucoup à Éric Zemmour, mais néanmoins, tout le monde s'accorde à dire qu'il a une vision de la France. Il sait où il veut l'emmener. Et en fait, ce pouvoir d'achat, il s'inscrit dans une inquiétude de grand déclassement qui évidemment va amener le mode de vie des Français à être beaucoup moins aisé qu'ils pouvaient le percevoir à un certain moment. Alors dire je vais donner tant aux étudiants, tant aux je ne sais plus qui elle est pour le SMIG, c'est du comment alors qu'on voudrait être dans le quoi. C'est la vocation d'un président de la République. C'est vrai qu'il y a une inflation qui menace qui est déjà perçu fortement par les Français sur les biens du quotidien. C'est paradoxal parce que des biens très technologiques et qui autrefois étaient inabordables sont devenus moins chers. Mais en revanche, acheter des cerises l'été, c'est...
D'où des débats sur la baguette, par exemple.
Prix. Exactement, le débat sur la baguette. Donc c'est des vrais sujets. Mais encore une fois, ça s'inscrit dans le cadre d'un pays qui est en train de se déclasser, y compris sur le plan économique. Et c'est des sujets d'ailleurs qui n'ont pas été abordés à cause de la crise du Covid, et qui pourtant sont évidemment essentiels. Et ce grand déclassement, il s'inscrit aussi dans la perspective de cette autre grande peur qui est celle du grand remplacement, c'est-à-dire qu'avec une mondialisation, une main-d'œuvre extrêmement peu chère qui peut arriver chez nous, et inversement une délocalisation, délocalisation, et on voit qu'avec le télétravail, ce ne seront plus seulement les ouvriers qui seront délocalisés, mais aussi les cadres, eh bien, on peut s'inquiéter pour le pouvoir d'achat des Français et tout simplement pour leur qualité de vie au-delà de la petite prime qu'on donnera aux étudiants de façon électoraliste. C'est un sujet extrêmement grave et qui est très peu abordé.
Guillaume Bigot, il y a un manque de prise de conscience des candidats du quotidien des Français dans cette campagne. Dans ce qu'on entend de Gabriel Cluzel, ça semble assez frappant.
Oui, c'est sûr, mais il faut quand même se hisser à la hauteur des circonstances, c'est-à-dire, si vous voulez que les Français vous suivent, il faut expliquer pourquoi, qu'est-ce que vous allez changer dans le mode de fonctionnement de l'économie, qu'est-ce que vous allez changer dans l'organisation de l'économie, pour que des sujets qui n'ont pas été traités, qui se sont aggravés depuis des décennies, soient enfin traités. Il faut, d'une certaine façon, bouger les curseurs. Sinon, on est dans l'invocation et dans le chamanisme, si vous voulez. Voilà, on peut donner 800 euros par-ci, 800 euros par-là, mais comment vous financez tout ça, d'une part? Comment vous réorganisez les choses? C'est ça, la question. Et là, au-delà, il faut quand même maintenant, ensuite, quand c'est la magistrature suprême. Donc, il faut vraiment aller au-delà et dire comment, dans quel plan général de société, ça s'insère. Là, je suis vraiment frappé du fait qu'on est vraiment, avec ces petits groupuscules, maintenant, on peut les appeler des partis de gauche, on est dans une stratégie de survie. On voit bien, quand même, la démarche. C'est vraiment une politique à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va regarder dans des enquêtes quanti ou quali d'opinion, de sondage.
Quelle mesure pourrait fonctionner?
Bah oui, là où les gens ne sont pas encore en main. Donc peut-être qu'on lui a dit, regardez, il y a encore les étudiants à prendre, parce que les étudiants, ils ne sont pas encore en main. Par ailleurs, c'est un véritable. Moi, je suis en train de dire que ce n'est pas un vrai sujet.
On en parle beaucoup moins, d'ailleurs, de la
pauvreté
jeunesse
des étudiants.
Alors, c'était un vrai
bien
sujet.
Sûr que oui. Mais grosso modo, voilà, et là, dans ce cas, allez, on va mettre 800 euros. Les profs. Peut-être qu'ils sont un peu déçus par Mme Hidalgo parce qu'on a vu que les profs ont sifflé Mme Hidalgo. Mais d'une certaine façon, elle aurait dû voir aussi, on va voir si les effets, peut-être que ça va très bien marcher. Mais grosso modo, Mme Hidalgo a proposé quand même d'augmenter considérablement le salaire des profs. Elle, comme vous le savez, elle a été dans le cortège de manifestation des enseignants et elle a été copieusement sifflée. Donc cette façon de fonctionner à la politique du « effectivement, à la papa », ça ne marche pas.
Oui, puis je trouve que s'adresser aux étudiants à quelque chose de très démagogique et un peu de courte vue, parce que si les étudiants doivent travailler pour faire leurs études, c'est aussi parce que nombre de parents ne peuvent plus les assumer. Et il y a une appréhension globale de l'appauvrissement d'un certain nombre de Français qui est à prendre en compte, et pas seulement par le petit bout de la lorgnette des étudiants, ce qui est évidemment... Et peut-être une stratégie de niche, en effet, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on considère que les étudiants, c'est quelque chose qui est intéressant électoralement parlant, mais en réalité, ça doit s'appréhender de façon globale, puisque les solidarités intrafamiliales font que si les parents peuvent aider leurs enfants, évidemment, ils le font. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas.
Oui, là, c'est la
avec
présence...
aussi l'accroissement de la hausse des frais de scolarité, qui sont phénoménaux.
C'est alors, un vrai là, sujet justement, aussi. C'est parce que ça correspond, si vous voulez, à un modèle de société. On voit bien qu'Emmanuel Macron a posé cette question. Il a dit oui, mais c'est pas normal qu'on ne paye pas dans l'enseignement supérieur, etc. Donc derrière, il y a quand même un plan de privatisation. Le fait d'avoir laissé les lits se fermer les uns derrière les autres et les services de santé se dégrader, c'est quand même une optique de privatisation parce qu'ils ont le droit de le croire. D'ailleurs, public pas bien, privé bien. Vous voyez, il y a quand même un projet de société derrière. On l'entend. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais là, quel est le projet de société alternatif qui est posé? C'est complètement défensif d'une certaine façon. Et là, Mme Taubira, elle doit se réveiller. Ce n'est pas une élection de syndicat étudiant. Comme Mme Hidalgo doit se réveiller, ce n'est pas pour prendre la tête d'un syndicat d'enseignants. Là, et on voit bien qu'ils sont tellement au bout du rouleau qu'ils vont essayer de gratter, de grappiller quelques pourcentages, parce qu'à la clé, il y a quand même la survie.
Un entretien sur un sujet très sensible à présent, celui des enfants français retenus avec leur mère dans les camps du nord-est de la Syrie. C'est Boris Cyrulnik qui accorde cet entretien au Journal du Dimanche, le célèbre neuropsychiatre qui exhorte dans les colonnes de nos confrères Emmanuel Macron à rapatrier les quelques 200 enfants de djihadistes et leur mère qui sont sur place maintenant depuis 3 à 5 ans. Pour Boris Cyrulnik, plus ces enfants restent en Syrie, moins ils aimeront la France. Ne pas les rapatrier est une menace pour notre sécurité. Plus ils restent là-bas, donc moins ils aimeront la France. Et il va plus loin, il faut, selon lui, rapatrier ses enfants avec leur mère, parce qu'il explique que les rapatrier seuls est une agression et un isolement supplémentaire. Ils vont probablement haïr le pays, donc la France, qui leur a infligé cette violence. C'est une fabrique de délinquants, très facile à récupérer par des idéologies extrêmes. On risque d'en faire des bombes. Guillaume Bigot.
Alors, d'abord, moi, je ne suis pas neuropsychiatre. C'est M. Cyrulnik qui est neuropsychiatre, donc il doit savoir de quoi il parle. C'est, voilà, je ne peux pas commenter.
On lui doit, par exemple, le mot de résilience.
Résilience, exactement. Hein, évidemment, de résilience. Et en fait, on ne peut pas, finalement, s'aventurer sur ce terrain qui est quand même extrêmement complexe de l'âme humaine et de savoir quelles vont être les réactions, etc. Bon, moi, il me semble, il y a des choses qui sont très simples. La première, c'est que, en termes de morale, d'humanité, je pense que la France s'honorerait à accueillir les victimes des minorités des minorités chrétiennes qui ont été martyrisées, des jeunes femmes qui ont été vendues au marché des esclaves par Daesh. Enfin, M. Cyrulnik, qui lui-même est malheureusement dans sa famille, dans son corps, expérimenté la barbarie nazie, il devrait comprendre que l'honneur de la France, ce serait d'accueillir les gens qui ont été victimes de cette barbarie, qui a pris un nouveau visage, qui est celui de l'islamisme, terrifiant, auquel les Syriens et les Irakiens ont été exposés. Donc là, il s'agit de familles qui ont embrassé une idéologie comparable à celle des SS, qui ont martyrisé des femmes, des enfants, torturés, égorgés, tant et plus, qui l'ont fait en allant rejoindre cette cause. Et je crois que le chantage moral consistant à dire vraiment, ce sont maintenant des victimes, il faut les accueillir, etc., ça me paraît quand même assez compliqué. Et maintenant, les enfants sont amendables.
Que faire de ces enfants?
Alors, ça, c'est le premier point, c'est que je pense que sur le plan de la morale, c'est difficile. Ensuite, les enfants, je pense qu'ils seraient... Enfin, moi, encore une fois, c'est pas mon métier, mais il me semble que des enfants sont amendables, sont toujours amendables. Des enfants jeunes, petits, etc., si vous les remettez dans une autre famille, si vous les reconstruisez autrement, etc. Oui.
Donc vous comprenez l'idée de les rapatrier,
écoutez,
mais seules, c'est ça.
Ces femmes sont adultes, elles ont
donc
fait leur choix.
Juste les enfants.
Elles ont décidé. Maintenant, moi, je ne suis pas neuropsychiatre, je ne sais pas quelles seraient les conséquences de rapatrier les enfants. Et la question qu'ils posent est sûrement bonne. Est-ce que ce n'est pas pire, finalement, de rapatrier les enfants sans les mères? Et enfin, dernier point, je pense que l'enjeu n'est pas qu'ils aiment la France. Enfin, l'enjeu est d'abord de protéger les Français et le monde entier contre ce genre de barbarie.
Gabriel Cluzel.
Oui, alors le Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, mais il s'adresse à un gouvernement. Et lui, le gouvernement, il doit penser d'abord aux enfants de France et ne pas les mettre en danger par une rhétorique, certes aux apparences charitables, mais potentiellement irresponsable à terme. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué, parce qu'il ne faudrait pas que la charité soit dévoyée et serve de cheval de Troie au terrorisme et à l'islamisme. Alors, c'est vrai que séparer un enfant de sa mère, c'est terrible.
Très dur.
Rapatrier seul, ça paraît très compliqué.
Mais avec en même temps, le risque d'agression et d'isolement supplémentaire.
Exactement. Mais c'est une vision très irénique. Je suis toujours surprise dans ces périodes très féministes de voir qu'on accorde à la femme le bénéfice de l'innocence intellectuelle. C'est-à-dire qu'elle aurait toujours suivi son conjoint un peu bêtement sans adhérer à l'idéologie. Non, c'est quand même des femmes. C'est faire insulte aux femmes d'imaginer qu'elles ne soient pas capables de penser, d'adhérer à une idéologie, d'être machiavélique, tout ce que l'on veut. Donc ces femmes adultes qui sont des mères sont potentiellement des dangers comme les hommes. Et rien ne dit certes, elles se plaignent des conditions de vie là-bas, et sans doute à raison, mais rien ne dit qu'elles aient tout abandonné, leur idéologie. Donc en faire des victimes par essence comme des enfants me paraît extrêmement curieux. Donc peut-être que... et par ailleurs, je rapprocherai cette déclaration, je ne veux pas l'offenser, mais de celle de Sandrine Rousseau qui disait pour s'occuper des terroristes, il faut les avoir sous la main, comme ça on les regarde. Bon, on sait très bien qu'en France, en plus, on est incapable de déradicaliser. Hein. On a essayé, ça a été un échec total. C'est même l'inverse. Donc, pourquoi ne pas envisager peut-être une troisième voie dans une perspective humanitaire, négocier avec des pays, j'en sais rien, l'Arabie Saoudite, des pays qui accueilleraient ces familles-là de façon humaine, mais dans des pays où, par exemple, règne la charia, et donc c'est dans leur univers mental, cela conviendrait mieux à ces femmes et à ces enfants.
Pour l'instant, la doctrine de l'État français, c'est le rapatriement au cas par cas des enfants seuls sans leur mère. Est-ce que ça doit rester ainsi?
Que les services consulaires s'occupent de ces cas-là, oui, mais ce n'est pas une politique d'État. La politique d'État, c'est une politique visant à protéger la France et visant à protéger les intérêts de la France. Et si vous voulez, c'est quand même toujours le même problème, c'est de confondre l'échelon collectif et l'échelon individuel. Sur le plan individuel, sans doute, il faut agir dans certains cas, c'est sûr et certain. Et on peut agir dans certains cas, oui, pourquoi pas. Mais il ne faut pas l'ériger en politique d'État. Et je pense que c'est vraiment des catégories qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. De plus, il faut dire que ces gens qui s'amusaient à voir des êtres humains brûlés vifs dans des cas otages parce que c'était des koufars. Lundi, une fois qu'ils ont perdu le pouvoir et qu'ils se sont retrouvés emprisonnés par les Kurdes, sont devenus des gens qui allaient faire de l'humanitaire là-bas et qui, en fait, sont des victimes, etc. Bon, bref. Donc, il y a toujours des gens pour tomber dans ce genre de panneau. Moi, il me semble, en effet, que c'est très important de rappeler que les femmes ne sont pas... D'abord, on parle de minorité concernant les femmes. Mais enfin, les femmes sont d'abord une majorité, elles ne sont pas une minorité. Et ensuite... Oui, elles ont quand même, probablement, sauf quand elles ont été là-bas très très jeunes et mineures, elles ont pu être manipulées, bien sûr, mais sinon, quand elles ont été là-bas majeures, elles ont pris leurs responsabilités tout de même. Les enfants, je répète, c'est très différent, parce que les enfants, et M. Cyrulnik, c'est au cœur de son travail, la fameuse résilience, je pense que les enfants peuvent changer, mais à condition...
Il faut le faire le plus tôt possible.
C'est pardon, ce il faut surtout les changer d'environnement. Oui. Il faut les mettre dans des nouvelles familles, dans un nouvel environnement, les reconstruire avec de nouvelles valeurs. Effectivement, le risque est très important. Si vous amenez le poisson rouge avec le bocal, ça peut être dangereux. Si vous amenez la mère et l'enfant, ça peut être très dangereux.
Oui, mais on peut... Pardon, bon, je suis désolée. C'est le grand rendez-vous à 10h sur CNews et Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, quel est votre invité aujourd'hui ?
Bonjour à vous, chère Isabelle, et bonjour à tous. Notre invité pour le grand rendez-vous Europe 1, CNews et Eco, ce sera le président de l'Association des maires de France, David Lisnard.
Et sur quel thème allez-vous l'interroger ?
Bah vous savez Isabelle, il est très attendu David Lisnard sur un sujet en particulier, ce sont les parrainages, les fameuses 500 signatures que des candidats ont du mal à obtenir. Il va s'exprimer en exclusivité chez nous sur ce point et puis évidemment sur la gestion sanitaire par Emmanuel Macron. Puis à droite, la campagne de Valérie Pécresse, quel sera le rôle et la place de David Lisnard ? Eh bien rendez-vous à 10h pour le savoir.
Rendez-vous est pris, merci beaucoup Sonia Mabrouk, à tout à l'heure. Merci Gabriel Cluzel, merci à vous Guillaume Bigot, vous restez avec nous. On continue à se pencher sur les grands thèmes de l'actualité ensemble sur CNews. Et pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral avec Frédéric Taddeï.
Merci beaucoup Isabelle Moreau. Bon dimanche. Bonjour Frédéric Taddeï.
Bonjour Thierry Dagiral.
Dans un instant, c'est arrivé demain. On parle de quoi ce matin, Frédéric ?
Le Covid avec Omicron est-il vraiment en train de devenir une maladie bénigne ? On fait le point avec Jonathan Roux. Il y aura François-Guillaume Lorrain pour son roman qui raconte le tournage d'Autant en emporte le vent. Et Nathalie Elal sur la gastronomie de Paris. Et oui, il y a des plats, il y a des spécialités, des produits qui sont typiquement parisiens. Et je ne parle pas que du jambon beurre.
A tout de suite sur Europe 1. Dans un instant, le journal de 9h, on sera à Melbourne où Djokovic va être expulsé. C'est fini. Il ne jouera pas l'Open d'Australie. Ne quittez pas, on revient.